Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même, c'est signé Daniel Pénac. Et que c'est vrai, et que c'est donc pour ça que j'aime animer cette émission Un livre découvert. Bonjour, je m'appelle Clotilde Seille et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, à l'émission, souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais eu au téléphone Michel Langlois qui nous avait partagé sa passion pour les livres. Eh bien, il a tellement aimé ça qu'il a décidé de revenir. Aujourd'hui, il est en studio et il va nous parler de l'art, entre guillemets, de lire, d'écouter des livres lorsqu'on est non-voyant. Donc, restez bien à l'écoute, ça va être passionnant parce que Michel est un homme passionnant. Et puis, je vais vous présenter aussi un livre qui s'intitule « Comment voulez-vous que j'oublie ?» Léo Ferré et Madeleine. On parle bien de la vie tumultueuse de ce couple-là, tel qu'il a été rédigé par la fille de Madeleine, un livre décrié. Je reçois Michel Lecomte, avec qui je vais, entre autres, revisiter le classique « L'arrache-cœur » de Boris Vian. Et ensuite, en début de seconde partie, Michel Lecomte nous présentera le quatrième mur de Sorge Chalandon. Et puis, il y aura aussi un extrait de l'Orangerie de Larry Tremblay, prix des libraires 2014 du roman québécois. On va ressusciter Hercule Poirot et bien sûr, pour terminer l'émission, il y aura quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Michel Langlois, rebonjour. On ne peut plus se passer l'un de l'autre.
Oui, non, on est devenu un couple célèbre.
Célèbre, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous
comme
remercie.
Comme Léo et...
et Madeleine.
Et Madeleine.
Michel, je me suis dit, en vous entendant la semaine dernière, je me suis dit, ce serait tellement formidable parce que je sais que vous donnez des conférences en tant que non-voyant. Et vous en avez d'ailleurs donné une le 26 septembre dernier. C'était à la journée de la culture, telle que nous la présentions ici aussi à l'organisme Vues et Voix. Et vous êtes venu rencontrer des gens non-voyants ou voyants et vous leur avez parlé, entre guillemets, de l'art d'écouter, mais comme vous le dites vous, de lire des livres audio, parce que vous ne dites jamais écouter des livres audio, vous dites lire des livres audio.
Hein. Exactement.
Alors, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu. Comment, parce que vous savez, pour nous, voyants, c'est extrêmement difficile. On a beau fermer les yeux, ça n'a rien à voir, parce qu'on sait qu'on peut les réouvrir, on s'entend.
Exactement.
Je voudrais donc que vous nous parliez de ça.
Ben écoutez, moi, la passion de la lecture, ça m'est venu... un petit peu en opposition aux effets de mon handicap. Tu sais, moi, je suis une personne aveugle. J'ai vu très peu jeune, passé pour lire l'imprimé. Puis à partir de l'âge de 15 ans, j'ai perdu toute ma vision. Puis à partir de l'âge de 30 ans, j'ai perdu même la perception lumineuse. Puis bon. Et puis mon handicap, ben, c'est sûr qu'il m'a lancé des défis souvent, de faire du sport, puis tout ça, mais ça amène des limites. Mais... Il y a des choses que tu peux pas faire du tout quand tu es aveugle. Tu peux pas conduire une moto, c'était ma passion. Il y a des choses que tu peux faire à moitié. Tu peux aller à un feu d'artifice, tu n'as pas l'image, tu as le son. Il y a des choses que tu peux faire à moitié. Tu peux faire du vélo tandem. C'est pas toi qui conduis, mais tu pédales.
Ouais.
Ben moi, je fais beaucoup de vélo tandem. J'ai compensé, disons, la frustration de ne pas conduire en faisant des performances. Mm-hmm. Tu fais des montagnes plus hautes, tu fais des distances plus longues, puis bon. À un moment donné, il faut que je me trouve des guides.
Oui, c'est ça.
C'est ça mon problème.
Là, pour ça, je vous le dis tout de suite, vous oubliez mon numéro de téléphone.
oui. Donc, à un moment donné, par des circonstances, parce que c'est mes premiers contacts avec des livres parlés, c'était à l'université quand il n'y avait pas aucun manuel en braille.
OK.
Fait que là, j'étais obligé de lire des livres, mais là, c'était par obligation. Puis c'était tout un effort, comme je disais, de... c'est pas de la faute des lecteurs, si fait, j'avais de la misère à rester éveillé dans un livre de philosophie. Et puis, après ça, j'ai travaillé pour l'Institut des aveugles au Saguenay, puis là, j'avais des livres audio à dispenser à mes clients, puis je les écoutais. C'est ça, de la job, avant de les remettre aux clients. On ne disait pas à personne. Et puis...
trop tard.
J'ai été comme... Je me suis dit... Quand t'embarques dans un bon livre, là, comme je dis, je fais comme Fanfreluche, la madame de la boîte à surprise qui embarquait dans l'histoire. Là.
Ouais.
Ben, moi, je ne la change pas, l'histoire, mais je la vis complètement. Fait que j'embarque, j'ai mes écouteurs, j'ai mon appareil adapté, puis je suis dans l'histoire, puis vis pleinement l'expérience. Puis pour moi, c'est la lecture à haute voix, là, c'est, je pense que c'est presque plus que de la lecture visuelle. D'après moi. Il y a un contact avec le lecteur.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous raconte une histoire?
Oui, c'est ça.
Et c'est ce que vous voulez, finalement?
Absolument. Ça dépend, oui. En général, moi, je lis des livres que j'appelle récréatifs. Là.
Oui.
De temps en temps, comme à un moment donné, il y a une couple d'années, j'ai essayé M. Cyrulnik sur la résilience.
Oui.
J'ai rien compris. Excusez-le. Mais... ou il est trop savant, ou je suis pas assez brillant. En tout cas.
Vous remarquez, ne vous inquiétez pas.
Oh là là,
oui.
Et puis, mais après ça, j'ai appris c'est quoi la résilience suite à une conférence d'Alain Sanson, d'une conférence d'une heure.
Ouais.
Et là, je sais c'est quoi la résilience.
Exactement.
Bon. Mais il y a d'autres. C'est pour ça, comme, tu sais, dans le fameux débat, est-ce qu'on lit des livres avec expression ou pas? Mais là, je pense qu'il. Il faut savoir choisir un petit peu la catégorie de livres. Tu peux pas dire... parce que, comme je te dis, mettons, quand, si je reviens à mon ami Cyrulnik, tu peux pas lire ça de façon très gay. Parce
c'est clair.
Veux-tu quelqu'un qui va lire un livre de recettes en mettant des émotions bien grosses en soupe?
Non, c'est clair. Mais par contre, si vous avez... est-ce que vous aimez, lorsqu'il y a des personnages, qu'on les joue un peu?
Moi, j'adore.
Ah oui?
J'adore. Moi, je me prononce dans le supposé débat, là. Mais dans les livres, comme, disons, les livres qui conviennent, le roman, qu'est-ce qu'ils font, les auteurs? Ils veulent transmettre des émotions.
Oui.
Hein? Mais là, on va dire à des lecteurs qui deviennent assez bons pour rajouter une couche d'émotion en personnalisant un personnage. On va dire, non, il fallait plus drabe que ça. Hey, écoute, ben, il fait assez noir dans la vie d'une personne aveugle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas-tu priver notre couleur quand on est bon? Voyons donc.
Mais oui.
Excusez, là.
Non.
C'est ce que je pense.
non, mais est-ce que, honnêtement, c'est quelque chose parfois qui circule. On a l'impression qu'il ne faut pas en mettre de trop. Mais moi, je qui suis en plus coach en narration, je peux vous le dire, j'apprends à mes élèves à mettre au contraire du relief. Mais je leur dis toujours attention, et je pense que c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est qu'il faut faire attention au surjeu, surtout quand on n'a pas le talent pour le faire.
Oui, mais
et je pense que là, il y a du danger.
Ben, des fois, moi, j'ai vu quelques erreurs, et vraiment quelques. Mais c'est parce qu'il y en a une, que j'ai un livre que j'ai lu dernièrement, et puis le lecteur, qui est, c'est un monsieur avec une voix assez grave.
Oui.
Et puis, il y avait un personnage, c'était un gros policier, pas très, très fité.
Oui.
Puis, il a mis une espèce de voix un petit peu aiguë, tu sais.
Donc
là, t'essaies d'imaginer un gros policier pas terrible, avec une petite voix même.
Non.
Il y a une erreur, là.
De toute façon, changer les voix, comme je le dis toujours, c'est une erreur. On ne transforme pas sa voix. On n'est pas des comédiens, on est des lecteurs.
Ouais.
Je pense qu'il faut faire une différence quand même.
Oui.
Et il nous reste à peu près 1 minute 30 à 2 minutes. Avez-vous un livre qui vous vient en tête en ce moment? Là, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, tiens, par exemple?
Ah, je suis en train de lire La fiancée américaine.
Ah!
Éric Dupont.
Qui est lu par Luc Mercure, d'ailleurs, ici, au SQLA.
OK.
Qui est lui-même auteur et qu'on a reçu il y a une semaine ou deux à l'émission. Et aimez-vous ça? C'est compliqué, peut-être, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Hein.
Le nombre de personnages, mais on dirait que je ne sais pas où il s'en va.
Ah!
Ouais. J'ai de la misère à accrocher une trame. C'est comme la... Moi, c'est très, très, très rare que j'abandonne un livre en plein. C'est très, très rare. On dirait que je ne me donne pas le droit, par respect pour l'auteur.
Si
la personne a voulu écrire ça jusqu'au bout, je vais le lire jusqu'au bout.
Michel, qu'est-ce que vous voulez dire?
Il faut se le donner, le droit, des fois, d'abandonner des livres, parce que...
Oui.
On n'est pas dans l'atmosphère, et puis...
Mais pas celui-ci.
Non,
celui-ci, là, moi, je sais, honnêtement, les 100 premières pages, j'ai cru que j'allais le lâcher. Mais après, là, tout d'un coup, quand ça décolle, oh mon Dieu, que je n'ai pas regretté mon choix.
Ben, c'est ça que je soupçonne. Parce que ça m'a été référé par des gens à qui j'ai bon confiance sur leur goût. Et puis, c'est pour ça que je ne veux pas le lâcher. Mais comme je suis rendu là, là, c'est ça. Je ne serais pas honnête de dire que je trippe bien fort.
Vous êtes dans un petit creux.
Non, mais... oui,
chose Michel. Intéressante, c'est qu'il lit des livres, hein?
Ah oui, oui, c'est ça, oui. Ouais,
mais quand
oui,
je rencontre du monde, là, c'est quand je t'ai vu l'autre fois.
Ah ben oui, c'est ça, exactement.
Parce
ben
que,
oui.
Regarde, c'est bien facile. Si, mettons, je dis, c'est pas si j'ai... Moi, quand je garde avec mes mains, si je dis j'ai touché ta femme hier, le gars va dire, hey, mon Moses. On peut pas changer de langue parce qu'on est personne aveugle.
Mais non, Michel, j'adore votre humour. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, mais je sais que vous allez devenir un des chouchous ici de notre auditoire. En tout cas, un de mes chouchous, c'est sûr que je vous rappelle très, très rapidement pour que vous reparticipiez à l'émission. C'était Michel Langlois, qui a longtemps été, je dois le dire, porte-parole de chez Mira, qui a été un sportif accompli, qui a fait beaucoup de ski, qui a même gagné une médaille olympique. Hein, une médaille d'or. Et voilà. Et qui est aujourd'hui aussi un grand lecteur devant l'Éternel. Merci infiniment, Michel Langlois.
Merci à vous.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait. Au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules, à la galerie je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous devant quoi l'on se traînait. Comme traînent les chiens avec le temps. Va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Faut-il présenter la chanson ? Bien évidemment, non, et encore moins son auteur-compositeur-interprète, Ferré, avec le temps, pour nous amener vers une nouveauté dont j'avais très envie de vous parler. C'est « Comment voulez-vous que j'oublie ?» Madeleine et Léo Ferré, écrit par Annie Butor, qui était la fille de la fameuse Madeleine avec qui Léo Ferré a partagé quelques années de sa vie. Et en fait, ça a été 18 ans. Ils ont été 18 ans ensemble. Et c'est un peu raconté de l'intérieur, en fait, puisqu'évidemment, elle partageait la vie de ces deux-là par la fille de Madeleine, Annie Butor. Et cette Madeleine-là, évidemment, Ferré l'a aimée d'amour. Ça, il n'y a aucun doute. C'est pour elle qu'il avait écrit Joli Môme, entre autres. T'es toute nue sous ton pont, il y a la rue qui est ma boule, joli môme, bon, tout ça. Et avec eux, au milieu d'eux, elle assiste à la création de plus de 200 chansons. On imagine ce que ça peut donner quand c'est écrit dans le livre. Elle assiste à des rencontres avec André Breton, Aragon, Louise de Villemorin, Le Prince Régnier, pour ne citer qu'eux. Et puis, elle partage la passion du couple pour les animaux, du Saint-Bernard aux oiseaux, en passant par les chimpanzés. N'oublions pas le fameux Pépé, le chimpanzé de Léo Ferré, qui a été assassiné. Non pas Léo Ferré, mais le chimpanzé. Elle est donc témoin privilégié de cette époque qui est peu connue de la vie de Léo Ferré. Et cette Annie Butor-là, en fait, elle réhabilite la mémoire de sa mère et elle trace un portrait émouvant, mais c'est un portrait sans concession de ces deux êtres-là exceptionnels. Oui, c'est un témoignage unique, mais ce n'est pas un témoignage rose. Et les meilleurs mots, en fait, qui pourrait remplacer les miens, je suis allée les chercher sous la plume de Pierre Foglia, qui, en été 2013, avait fait paraître un article suite à la parution de ce livre-là, qu'il avait lu. Et voilà ce qu'il en disait, Pierre Foglia. Il avait dit, vous avez-je dit que j'avais habité la même pension de famille que Léo Ferré ? Ça doit, je vous dis tout. 10 ans après lui, la pension s'adossait à la faculté de médecine dans le bas de la rue Saint-Benoît. Je travaillais dans une imprimerie juste en face, qui est devenue un hôtel chic. La pension est toujours là, mais ce n'est plus une pension. Je suis passée l'autre jour, c'est je ne sais quoi. « C'est pas pour ça que j'aime Ferré », a écrit Pierre Foglia. « Je l'aime depuis tout petit, je l'aime depuis la première fois que je l'ai entendu. Je voulais être anarchiste, comme lui. Moi aussi, je prenais les campanules pour des fleurs de la passion. C'est par lui que m'est venue la poésie, enfin par Aragon, mais chantée par Ferré. Je n'avais jamais lu de livre sur Ferré, c'est le premier. » Il est sorti ce printemps. Le titre, « Comment voulez-vous que j'oublie ?» L'auteur, Annie Butor, la fille de Madeleine. Et Madeleine, c'est l'autre, dans la chanson « Avec le temps ». L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre, Madeleine, donc, se matérialise soudain dans le livre et cela fausse grandement les perspectives. Voilà que la plus belle chanson d'amour de tous les temps devient la plus triste chanson d'amour de tous les temps. Vous aimez Léo Ferré ? Vous voulez l'aimer encore ? Alors il ne faut pas lire « Comment voulez-vous que j'oublie ?» Annie, qui écrit le livre, Annie, la fille de Madeleine, a 5 ans, en 1950, quand sa maman lui dit « On va voir ce soir un monsieur très gentil, je compte sur toi pour être très gentille aussi. » Le monsieur, c'était Léo Ferré. Madeleine et Ferré resteront 18 ans ensemble, Annie a tout vu, tout entendu. Il pouvait être fastueux ou sordide. Sa bonté était intermittente, son cœur sélectif, sa mauvaise foi colossale. Il a voulu mettre à la poubelle son passé, il a soigné sa légende de poète maudit, et celle d'anarchiste donc. Il a fait de sa haine son fonds de commerce. Vous aimez, Ferré ? Ne lisez pas ce livre-là. Réécoutez Pépé. T'avais les mains comme des raquettes. Pépé, Pépé. Il poursuit en disant, Foglia, les chapitres les plus douloureux sont ceux où il est question de Pépé, justement, la chimpanzée que Madeleine et Léo ont adoptée comme leur fille, de laquelle Ferré disait qu'elle avait des oreilles comme celles de Gainsbourg et pour laquelle lui, Lanard, courait les épiceries les plus chics de Paris, Hédiard et Fauchon, pour lui acheter des fruits exotiques. La Guenon finira par se blesser en tombant d'un arbre, Ferré s'enfuira en abandonnant à Madeleine toute leur ménagerie. deux autres chimpanzés, un âne, des chiens. Quand j'entends Pépé à la radio, dit Annie, je ferme la radio. Elle la ferme aussi quand elle entend « Avec le temps, tout va, tout s'en va ». C'est un livre qui nous dit que finalement, ça ne s'en va pas tant que ça. Vous aimez Ferry ? Vous aimez Ferré ? Ne lisez pas ce livre-là. Ou peut-être que si.
C'est de toute beauté.
Et si vous le voulez bien, d'un chanteur, Léo Ferré, on va passer à un autre, mais oh là, qui n'a pas été que chanteur, qui a été musicien de jazz, auteur surtout, poète aussi, bien évidemment. Je veux parler de Boris Vian. On l'écoute d'abord.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dallopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Et le classique de la semaine, vous l'aurez compris, bien évidemment, ce sera du Boris Vian. On a choisi Michel Lecomte et moi, bonjour Michel.
Bonjour Clotilde, comment ça va?
Mais ça va bien, ça fait plaisir de vous retrouver.
Eh bien, comme ça.
Vous allez venir ici, vous allez être ici pour deux raisons. D'une part, là, on va revisiter ensemble un classique, donc oui. L'arrache-cœur de Boris Vian. Et on vous retrouve ensuite en deuxième demi-heure pour nous parler du livre de Sort Chalandon, Le quatrième mur.
Et je dirais que parmi les auteurs qui ont inspiré Chalandon, il y a Boris Vian.
Non.
Oui. J'ai lu ça dans une entrevue.
Qu'est-ce qu'on retient de l'arrache-cœur, Michel? Parce qu'il faut le dire, on a lu ça ensemble. Hein?
Oui. Vous étiez... Mais vous le lisiez, ben, moi je riais.
Oui, mais... mais on riait, mais en même temps.
Il se passe toutes sortes de choses.
On s'entend que c'est pas drôle. C'est pas un... Attendez,
c'est
là.
Outrecuidant.
Oui. Oula.
Ah, non, mais c'est vrai.
Oui.
Parce que moi, je me rappelle la foire aux vieux, par exemple.
Ben oui.
C'est quand même quelque chose d'absolument épouvantable.
Oui.
Donc, on est, il pousse tellement loin le caractère abject qu'à un moment donné, c'est comme, on est dans l'outrecuidance, c'est ça.
Oui.
Le curé qui croit pas en Dieu, mais qui fait de l'argent sur ses paroissiens. Puis, une langue absolument extraordinaire. Oui. Par exemple, il y a les jumeaux, ça s'appelle des trumeaux.
Ben oui.
Leur prénom, c'est Joël, Noël et Citroën, c'est-à-dire, donc, il faut quand même aller les chercher.
Oui.
plein de références à la littérature.
Oui.
En plus, c'est, je pense, une très belle critique de la psychanalyse.
Oui, et puis, mais moi, je vais encore plus loin que ça, parce que moi, je sais qu'il y a des fois où on a éclaté de rire, effectivement, parce qu'il
y avait des
choses insensées. Mais en même temps, je me dis, n'est-ce pas simplement une espèce de pas de parabole, je cherche le mot, mais c'est un parallèle avec la cruauté du monde qui est poussée à son paroxysme là,
oui.
Et il est allé, mais bon, parce qu'en plus, d'après ce qu'on dit, vous savez que ça, c'était son dernier livre, hein?
Oui.
C'était le dernier roman, et ça a tellement fait un flop que ça a provoqué l'abandon de la carrière d'écrivain de Boris Vian.
Oui.
Et il y a notamment, on s'est demandé à ce moment-là si ça n'était pas une auto-analyse, parce qu'apparemment, la mère de Boris Vian était hyper castratrice.
Ah.
Et il y a, dans ce roman-là, par rapport
à
Clémentine,
oui.
qui est, mais attendez, castratrice par rapport à son enfant, c'est rien de le dire, quoi.
Ouais, c'est ça.
Hein, donc, je me dis, en même temps, il y a justement, vous parliez de ce curé, vous parliez de ces enfants qu'on met en cage pour ne pas qu'ils volent, parce que les enfants volent dans ce livre-là.
Il faut les contraindre.
C'est ça, donc, en même temps, c'est un livre sombre, c'est un livre noir.
Oui.
Il y en a même un jour, qui a dit, un critique, où il jette Boris Vian tout son dégoût et sa hargne. C'est pas un livre facile. Faut avoir le cœur drôlement bien accroché pour le lire. Si vous êtes dépressif, là, en ce moment, moi, je serais vous, j'éviterais l'arrache-cœur de Boris
Il faudrait pas être cynique non plus, parce qu'il faut se rappeler la gloire qui prend tous les remords du monde. C'est-à-dire que c'est un monde qui s'est créé de telle manière que tu peux faire toutes sortes de choses absolument abjectes. De toute façon, tu vas le dire à la gloire, et la gloire va prendre sur lui la culpabilité.
Ouais,
et
ouais.
toi, tu peux continuer à faire des choses abjectes.
Abject.
On est dans le cynisme...
Ah oui, total.
On ne peut pas faire de parallèle avec ce qui se passe ici, mais quand même.
Merci beaucoup, Michel Lecomte. Donc, nous vous conseillons, Michel Lecomte et moi-même, de relire ce livre, L'arrache-cœur de Boris Vian. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seix, c'est l'émission Un livre découvert sur les ondes de Canal M. Restez là.
Vous écoutez Un livre découvert avec Clotilde Seil et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et le bénévole du jour, c'est notre ami Michel Lecomte qui nous fait la joie de rester pour la deuxième demi-heure de cette émission.
Avec plaisir.
Avec plaisir en plus, nous dit-il de sa si jolie voix. Michel, vous y teniez, ça fait des semaines, voire des mois que vous me dites... Le jour où le livre de Sorge Chalandon, Le quatrième mur, sera disponible au SQLA, je veux venir en parler.
Ah oui, parce que c'est un livre absolument essentiel. Dur, très dur, mais essentiel. Et il faudra...
Dur, dans quel sens?
C'est parce que quand on lit ce roman... Est-ce que...
Oui, on y va. Okay. Ça y est, c'est parti.
Quand on lit ce roman, on a affaire à quelque chose d'absolument génial. C'est que Chalandon... est un individu qui a été un grand reporter. Et en tant que grand reporter, il n'avait jamais la possibilité d'exprimer quelque émotion que ce soit par rapport à ce qu'il était en train de vivre. Ce livre se rappelle une chose, le massacre de Sabra et Shatila, où à peu près 3000 Palestiniens ont été assassinés. Et lui, il a vu ça. Et il tente dans ce roman-là d'essayer de nous faire comprendre d'une certaine façon comment les tensions qui existaient entre les Druzes, entre les Maronites, entre les Palestiniens, avec toute cette communauté qui était une communauté qui a des particularités, des visions sur le religieux qui est aussi assez particulier, qui sont en guerre civile de toute façon à ce moment-là. Comment ces gens-là vont essayer de tirer d'une certaine façon leur épingle du jeu? Mais lui, il ne peut que nous le présenter. Sauf que là, il essaye de nous le présenter en nous montrant comment ça s'est passé, cette chose-là. Et pour faire ça, il a eu la très bonne idée de monter la pièce Antigone de Jean Anouilh et de faire en sorte que son héros soit obligé, pour faire cette pièce-là, de rassembler autour de cette pièce une Palestinienne qui jouera Antigone, un Maronite qui jouera Créon, un Aimon sera joué par un Druze, la sœur de Antigone, Ismène, sera jouée par une catholique arménienne et les gardes seront des chiites. Donc, il est obligé d'aller les chercher. Il est obligé de faire cette pièce-là à l'intérieur d'un lieu qui est un théâtre qui est sur la ligne de démarcation. Et il est obligé d'aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut quand même qu'il entre en contact avec ces gens-là. Et grâce à son chauffeur qui s'appelle Marwan, il est en mesure de pouvoir ne pas trop faire de gaffe quand il est en train de rentrer, d'aller voir ces gens-là. Parce qu'un jour, il va chez les chiites pour aller chercher la permission de faire jouer les enfants.
Oui, parce que, excusez-moi, mais ça doit être facile de faire une gaffe quand on met les pieds au milieu de tout ça pour s'y repérer, pour comprendre, quoi, pour s'y retrouver.
Il ne fait que ça, des gaffes, mais heureusement que Marwan est là. Mais quand il arrive chez les chiites, étant donné que Marwan a vu qu'il serre la main de tout le monde comme si c'était un Français, parce que le héros, c'est Georges et c'est un Français. Alors donc, il a l'impression qu'il lui dit, écoute, calme-toi, il faut à tout prix que quand tu rentres chez les chiites, tu fasses une chose, t'enlèves tes chaussures. Deux, tu ne le regardes pas. Trois, tu ne lui serres pas la main, tu es un impur et tu attends. Et quand le chiite arrive, le père des garçons qui vont jouer les gardes, quand le chiite arrive, il lui tourne le dos et il s'adresse au mur. Donc, c'est quand même quelque chose. Mais alors, ce roman-là, c'est un roman qui permet de voir toutes ces dimensions qui sont les dimensions culturelles qui sont à l'intérieur de cette chose-là. Mais là, je vais te lire quelque chose parce que je veux le dire. Ce qui importe, c'est qu'il faut bien vous aimer, Clotilde, pour relire ce texte essentiel, mais qui vous brise le cœur, vous tire les larmes et qui parfois vous oblige à le poser, puisque votre vue s'embrouille, les larmes et la douleur vous chavirant le cœur. C'est absolument épouvantable à lire. Bon, pour faire une histoire courte.
Mais épouvantable à lire, parce que là, je ne voudrais pas...
Non. C'est épouvantable au sens où vous êtes baigné d'une émotion effrayante. C'est-à-dire que quand il entre dans Sabra-et-Shatila, dans Shatila, et qu'il découvre des individus qui sont morts un peu partout, eh bien, c'est terrible. C'est-à-dire, et la description, parce que le style de Chalandon, c'est quand même un style assez particulier.
Mais il est journaliste, hein?
Oui. Et c'est ce qui fait aussi que la qualité de son œuvre. Parce qu'en tant que journaliste, il est en mesure de nous parler de choses qu'il a vues, qu'il est capable de présenter. Parce que ce n'est pas un témoin à propos d'un témoin, c'est lui qui a été témoin de ces choses-là. Ouais. Et c'est absolument génial. Donc, le héros, pour faire court, le héros, c'est Georges. C'est l'alter ego de Sorge, donc c'est l'alter ego de Chalandon. C'est un étudiant révolutionnaire qui est un petit peu romantique, qui vit beaucoup dans sa tête et qui un jour va rencontrer Akounis. Akounis, c'est un Grec qui, lui, a été torturé durant la période des colonels, mais qui est, lui, un vrai metteur en scène et qui pense que le théâtre est un moyen de stimuler d'une certaine façon la paix entre les individus. Et Georges va être fasciné par cet Akounis, mais Akounis, lui, il va être mal pris parce qu'il va avoir un cancer. Et à cause de ce cancer, il ne peut pas aller au Liban pour monter la pièce de théâtre qu'il voulait monter, qui est l'Antigone d'Anouilh. Alors donc, il envoie Georges. Et là, Georges découvre que la vie est particulièrement difficile quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Pourquoi j'aime Chalandon? Oui. Je l'aime beaucoup parce que son écriture est sensorielle. Tous ces mots passent par le corps avant d'entrer dans l'esprit. Ça sent la peur, ça sent la sueur, ça sent les fruits corrompus, ça sent le sang. C'est-à-dire, ça sent. Parce que son rythme est vrai comme le rythme... varie comme le rythme cardiaque. Lent pour la paix, rapide pour la peur, saccadé pour l'action.
Les
phrases sont courtes, les mots précis, pas de fioritures. Il faut noter que Chalandon, quand il écrit un roman, met en boucle un morceau de musique qu'il entendra, qu'il repart à chaque matin pour que, retrouver
ça. Oh, ça m'aurait intéressé, ça. C'est quoi? Est-ce qu'on sait ce que c'est?
Oui, c'est le Pillé Jésus, je ne sais pas comment
oui,
on prononce ça.
Oui, le Pillé Jésus, oui.
De Durufflé, tiré de son Requiem.
Incroyable.
Alors, à chaque... Et ce morceau de musique, il voulait le faire jouer au moment où la pièce aurait été jouée.
Oh, que j'aurais voulu l'avoir, qu'on aurait entendu ça. C'est sûr, ça. Oh, c'est tellement beau, en plus.
Et dernière chose, j'aime beaucoup Chalandon parce que jamais il n'est dans le bien et dans le mal. Mm-hmm. Il place ses personnages dans l'action, il les fait agir. On les comprend héros ou lâches, romantiques ou réalistes, vainqueurs ou vaincus. Mm-hmm. Mais on les comprend comme des humains remplis de contradictions, de peurs mm-hmm. et de désirs. C'est vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire.
C'est l'heure de l'extrait, je pense.
Oui, je vais te faire ça. C'est un extrait où c'est la reconnaissance par Georges du théâtre où il devra jouer. Mm-hmm. Seuls ces comédiens qui ne se sont encore jamais rencontrés sont invités, sauf qu'ils découvrent quand il arrive une dame qui s'appelle Simone. Alors, je vais essayer d'être le meilleur possible. Je fais comme je peux. Le public ne pouvait assister à cette réunion, c'était convenu avec les combattants. Seuls les acteurs et moi avions le droit d'entrer dans le cinéma. À mon regard, Simone a eu un geste amusé. Elle a levé le bras et agité la main, montrant son brassard blanc, signe de ralliement imposé par les deux camps. « Ne vous inquiétez pas, ils savent que je suis là. » Et puis elle a ouvert son sac et bu une bouteille d'eau au goulot. Sa présence me rassurait, me dérangeait. Cette femme était chez elle. Elle se comportait comme le propriétaire du lieu. Alors, j'ai décidé d'être son hôte. Je me suis assis dans le fauteuil à côté d'elle, face à la scène, désolée. Elle avait sorti une broderie étrange aux reflets bleus, des aiguilles et du fil. On y devinait deux égarés dans un brouillard de givre. L'une nous montrait le dos, la seconde nous regardait. Son visage était une tache blanche. « Vous connaissez Elie Kanaan ?» m'a demandé Simone. « Non, je ne le connaissais pas. C'est l'un des plus grands peintres de notre pays, m'a-t-elle expliqué, sans quitter son ouvrage. Elle travaillait au point lancé, offrant à la laine la grâce du lavis. Je me suis inspiré de l'une de ses toiles, deux femmes qui attendent, mais qui attendent je ne sais quoi. Selon vous ?» Elle piquait et repiquait serré, remontant parfois ses lunettes qui glissaient. « Ce qu'elles attendent ?» À part la mort, je ne vois pas. Simone aurait fait une très belle Eurydice, courbée sur sa tapisserie, sans un regard en dehors de son cadre. Pourquoi la mort? Parce qu'on ne quitte la vie. On ne quitte pas la vie autrement. Elle cousait, je relisais les répliques du cœur. La mort m'a pris mon petit-fils. Il était à Damour en février 1976. Elle a levé les yeux. « Vous connaissez Damour ?» J'ai hoché la tête. « Mais pas Elie Kanaan ?»« Mais pas Elie Kanaan. » Un instant, j'ai cru que vous ne saviez rien de nous. Je sais ce qui s'est passé à Damour. Non, ne dites pas ça. Vous ne savez pas. Personne ne sait ce qu'est un massacre. On ne raconte que le sang des morts, jamais le rire des assassins. On ne voit pas leurs yeux au moment de tuer. On ne les entend pas chanter victoire sur le chemin du retour. On ne parle pas de leurs femmes qui brandissent leurs chemises sanglantes de terrasse en terrasse, comme autant de drapeaux. Simone travaillait les bleus avec patience. Elle s'attaquait au bord supérieur droit, une nuit profonde, lentement dégradée vers l'outre-mer, puis l'azur, puis le roi, puis le pâle, puis le blanc. Il s'appelait Maroun. C'était notre ange. Il a été égorgé. Je regardais l'aiguille, la laine, je me suis demandé si les autres viendraient. Il était dans les forces libanaises? Simone a levé son aiguille et secoué la tête. Il avait 18 mois, Monsieur Georges.
Si je vous rappelle que c'est Michel Lecomte que nous écoutions à l'instant religieusement, j'allais dire, dans cet extrait du livre de Sorge Chalandon qui s'intitule « Le quatrième mur ». Chalandon, C-H-A-L-A-N-D-O-N. On a largement dépassé le temps, mais ça fait rien. Je vais couper un petit peu de la musique que j'avais prévue après. C'est pas plus grave que ça, Michel. Juste par contre, en quelques secondes, pourquoi le titre « Le quatrième mur » ?
Le quatrième mur, c'est... Le quatrième mur, c'est le mur transparent qui sépare la scène de la salle, la fiction de la réalité.
Ah, okay.
Donc, au théâtre, c'est ça. Quand Georges arrive au Liban, la complexité politique de cette guerre civile est pour lui une pure fiction, donc c'est du théâtre. Mais, je ne vais pas trop vous en dire, mais Georges fracassera ce mur en montant sur la scène, en se faisant acteur dans ce théâtre libanais. C'est pour ça que
le quatrième mur s'est effondré. On n'en dira pas plus. Merci beaucoup, Michel. Vous restez encore jusqu'à la fin de l'émission, même si je n'ai pas de vin rouge comme dans une certaine émission. Merci beaucoup d'être là.
Je reste avec
on y va un petit peu en musique.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Vous savez que ça fait partie des nouvelles chroniques maintenant, rubrique, je dirais plutôt, de cette émission, Un livre découvert. C'est peut-être de vous annoncer un petit peu ce qui va venir dans les émissions à venir. Et la semaine prochaine, on va avoir Gérald Miller, qui est un abonné du SQLA non-voyant. Et ça faisait longtemps, lui, aussi longtemps que Michel Lecomte, qui voulait venir nous parler du quatrième mur, lui, ça faisait des mois qu'il voulait venir nous parler de l'Orangerie. Et il y a une filiation évidente entre ces deux livres-là. D'abord, purement parce que si le quatrième mur a reçu le prix des libraires du Québec pour le roman québécois, eh bien pour le roman étranger, l'Orangerie de Larry Tremblay, lui, a reçu ce même prix, mais pour le roman québécois. Mmh. Et en plus, il y a deux semaines, Larry Tremblay, pour ce livre-là, l'Orangerie a aussi remporté deux prix. Au salon du livre du Saguenay qui s'est ouvert il y a deux semaines. Donc c'est vraiment un livre qui plaît beaucoup. Et lorsqu'on lit le résumé de ce livre-là, vous allez voir la filiation, Michel, avec le quatrième mur de Sorge Chalandon. Quand Ahmed pleure, Aziz pleure aussi. Quand Aziz rit, Ahmed rit aussi. Ses frères jumeaux auraient pu vivre paisiblement à l'ombre des orangers, l'orangerie. Mais un obus traverse le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre s'empare de leur enfance et sépare leur destin. Des hommes viennent réclamer vengeance pour le sang versé. Ahmed, à moins que ce soit Aziz, son jumeau, devra consentir au plus grand des sacrifices. Et tous paieront le tribut des martyrs, les morts comme ceux qui restent. Et on nous dit, entre autres, dans une critique, que Larry Tremblay frappe encore un grand coup. Il vise le cœur, il laisse au lecteur le soin de départager les âmes pures des fourbes et les fanatiques des héros. C'est un texte à la fois actuel et hors du temps qui possède la force brute des grandes tragédies et le lyrisme des légendes du désert.
Ouais,
la filiation est évidente.
Ouais, hein,
on est absolument d'accord. Ouais. Je vous propose un extrait de l'Orangerie tel qu'il a été lu ici dans les studios de Vues et Voix et tel que ça vous est proposé, peut-être sans la musique quand même, au SQLA.
Si Ahmed pleurait, Aziz pleurait aussi. Si Aziz riait, Ahmed riait aussi. Les gens disaient pour se moquer d'eux, plus tard, ils vont se marier. Leur grand-mère s'appelait Shannon. Avec ses mauvais yeux, elle les confondait tout le temps. Elle les appelait ses deux gouttes d'eau dans le désert. Elle disait, « Cessez de vous tenir par la main, j'ai l'impression de voir double. » Elle disait aussi, « Un jour, il n'y aura plus de gouttes. il y aura de l'eau, c'est tout. Elle aurait pu dire, un jour, il y aura du sang, c'est tout. Ahmed et Aziz ont trouvé leurs grands-parents dans les décombres de leur maison. Leur grand-mère avait le crâne défoncé par une poutre. Leur grand-père gisait dans son lit, déchiqueté par la bombe venue du versant de la montagne où le soleil, chaque soir, disparaissait. Quand la bombe est tombée, il faisait encore nuit. Mais Shannan était déjà levée. On a retrouvé son corps dans la cuisine.
Michel, vous pouvez vous avancer. C'est vraiment le même esprit que le quatrième mur. Hein.
Oui.
On est dans la...
On est exactement dans les mêmes atmosphères, le même rapport à la vérité.
À la vérité, c'est ça, exactement. On passe à une autre chronique que vous aimez beaucoup, je le sais, parce qu'on a reçu plein de commentaires.
Des nouvelles et des livres.
Associer une nouvelle avec des livres disponibles au SQLA, c'est ce que je propose maintenant à chaque semaine. Et j'ai lu cette nouvelle-là, c'était le 15 septembre dernier. C'était dans le Journal de Montréal, mais en faisant des recherches, j'ai vu que tout le monde en avait parlé à un moment donné ou à un autre. De quoi s'agit-il? Eh bien, figurez-vous que Hercule Poirot, le mythique détective belge créé par Agatha Christie, bien sûr, qui l'avait enterré en 1975, à un an avant sa propre mort, eh bien, figurez-vous qu'Hercule Poirot va reprendre vie sous la plume d'une Britannique qui s'appelle Sophie Anna, avec la bénédiction des héritiers de la reine du crime. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas ça dans leur dos, là. Ils ont accepté. Et c'est la première fois que ces héritiers-là, de Agatha Christie, disparu en janvier 76 à 85 ans, je le rappelle, eh bien, c'est la première fois qu'ils donnent carte blanche à un auteur pour écrire une nouvelle aventure d'Hercule Poirot. Et ça, c'est quand même près de 40 ans après la dernière énigme, qui s'appelait Sleeping Murder. Je ne sais pas si vous aviez lu ça. Non, ça vous dit rire. Et vraiment, c'est... Alors, ça va sortir, ça... Il me semblait que je l'avais noté, puis je ne sais plus. Mais de toute façon, c'est quelque chose... C'est certain que ce sera lu ici. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on a d'Agatha Christie, nous, ici, au SQLA? Alors, j'ai fait une recherche... Ben. Et on en a quelques-uns, mes amis. Écoutez, attelez-vous, c'est assez incroyable, mais oui. Alors, bon, associé contre le crime, on a une autobiographie, entre et... autres, qui doit, ça doit être assez passionnant de lire ce que Mme Agatha Christie avait à dire. Et puis alors, on a plein de titres qui nous font rêver, qui nous ont amenés ailleurs, qu'on soit jeune ou non, parce qu'Agatha Christie, hein, on est capable de lire ça tout le temps. Et puis, y avait cette série Hercule Poirot, extraordinaire, qu'on a tous vue. Alors, il y a Cartes sur table, Le chat et les pigeons, Christmas Pudding, Cinq petits cochons, hyper connus, Le couteau sur la nuque, Le crime du golf, Destination inconnue, Les célèbres diptynèdres qui
même.
Sont là aussi quand même, Le flambeau, L'heure zéro, qu'est-ce qu'il y a d'autre, La maison biscornue, La maison du péril, Meurtre en Mésopotamie, alors celui-ci je m'en souviens bien, là, quand j'étais jeune j'avais lu ça, oui, La mort n'est pas une fin, N ou M, et puis aussi La nuit qui ne finit pas, Les Pendule, il y en a d'autres, Une poignée de seigle, La plume empoisonnée, La romancière et l'archéologue, Rendez-vous avec la mort, Les sept cadrans, Le train bleu, Les travaux d'Hercule, Trois souris, etc. Il y en a. Alors, si vous aimez l'univers d'Agatha Christie, eh bien, tenez, pourquoi ne pas vous replonger dedans? Il me semble que ça pourrait être une excellente idée. Vers quoi on s'en va? Tiens, une chanson peut-être? Non, pas une chanson. Je suis un peu perdue, mais je vais me retrouver. Ah oui, on a quelques titres en rafale, quelques nouveautés. On va y aller.
Quelques nouveautés en rafale.
Et oui, quelques nouveautés. Je commencerai aujourd'hui par Humaine. C'est d'une femme qui s'appelle Rebecca Maisel. Ça s'écrit M-A-I-Z-E-L. Il y a un lecteur qui a lu ce livre-là et qui dit « J'avoue que je suis encore un peu abasourdi par ce roman. C'est une lecture totalement différente sur un sujet qui m'est très familier, l'univers vampirique. » Mais attention, on n'est pas dans le machin d'adolescent, là, d'après ce que je comprends, pas du tout. Ici, on découvre un nouvel aspect de ces êtres, des vampires, mais à l'état brut. Il se révèle d'une beauté à couper le souffle, nous dit-on dans ce livre qui s'appelle, je vous rappelle, Humaine, coincé dans cette belle enveloppe qui ne renferme cependant que haine, violence et amertume. Ils sont incapables d'avoir le moindre sentiment et tout ce qu'ils peuvent percevoir reste superficiel. Alors rien ne les attendrit, ils vivent pour tuer et c'est ainsi que Léna a formé un cercle à son image, un groupe d'hommes qu'elle a choisi de transformer selon des critères de sélection bien précis. Ils sont unis par un lien indestructible et violent, c'est la seule chose qu'elle a su créer dans sa vie de vampire. Mais Léna, privée de plus en plus de sentiments et de sensations, est au bord du gouffre et cette existence l'amène peu à peu à la folie. Ce qu'elle souhaite plus que tout maintenant, c'est redevenir humaine. Des critiques, on nous dit entre autres que c'est un roman poignant, d'une écriture incroyablement poétique qui relève plus d'une réflexion sur la vie que du roman d'aventure. Hein? Alors, ça s'appelle Humaine et c'est de Rebecca Maizel, M-A-I-Z-E-L. Dans le noir, encore avec Danse noire de Nancy Houston, on est sur un lit d'hôpital, Milo s'éteint lentement. À son chevet, le réalisateur new-yorkais Paul Schwartz rêve d'un ultime projet commun. Vous l'avez lu, ce livre?
Oui, c'est extraordinaire. Hein? Oui.
Il rêve d'un film qu'ils écriraient ensemble à partir de l'incroyable parcours de Milo.
Oui.
Et dans un grand mouvement musical pour changer ses origines, d'abord effacées, puis peu à peu recomposées, on dit que ce film suivrait trois grandes lignes de vie qui traversent guerre et exil, invasion, résistance, hein, et qui nous plongeraient dans la tension insoluble entre le vieux et le nouveau monde, le besoin de transmission et le rêve de recommencement. Alors ça nous amène du XXe siècle à nos jours, de l'Irlande au Canada, c'est bien ça. De la chambre sordide d'une prostituée indienne, oui, au rythme lancinant de la capoeira brésilienne.
Ah oui.
Qui est là.
On danse beaucoup dans ce moment.
C'est ça. Hein? Oui. D'un hôpital catholique québécois aux soirées prestigieuses de New York, c'est une histoire d'amour et de renoncement qui est habitée d'un bout à l'autre par le bruissement des langues et par l'engagement des cours. Quelques critiques. Dans la presse, on disait « Danse noire se révèle un véritable roman du monde ». Un récit qui entrelace habilement trois destins et qui rend un hommage touchant à la langue d'ici,
oui,
la langue du,
oui,
Québec.
Oui.
Et dans Le Point, on disait de l'Irlande au Canada, en passant par les rythmes obsédants de la capoeira brésilienne, Nancy Houston explore la complexité des origines et de la transmission. Car qui est-on finalement à part le fruit de destins souvent diamétralement opposés ? Somme toute, le héros de notre film intime. J'en ai, oui, un petit extrait.
C'est vraiment ça.
C'est ça, hein, oui. Un petit extrait ici. Les prisons ont un avantage par rapport au placard de ton enfance, c'est qu'on peut y rencontrer d'autres prisonniers. C'est au centre d'accueil des délinquants que tu prends langue pour la première fois avec les Indiens. À l'école, on t'avait appris 1000 choses sur les Britanniques, les Français et leurs descendants fiers, héroïques et capitalistes en Amérique du Nord. Sur les habitants originaux du Canada, par contre, rien que des bricoles folklore. Or, plus tu rencontres d'Indiens, plus tu te mets en colère contre eux. Il te semble que dans toute l'histoire humaine, aucun peuple n'a accepté aussi pleinement sa défaite. Nancy Houston, je vous rappelle le titre, Danse noire, Houston, H-U-S-T-O-N. Bien sûr, je suis contente que vous l'ayez lu.
Ah, c'est vraiment très, 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 très intéressant.
Vous qui avez aimé Le Quatrième Mur, celui-ci pourrait peut-être aussi vous plaire. Ça s'appelle Des femmes au printemps. C'est signé Jemila Benhabib. Benhabib, B-E-N-H-A-B-I-B. De ce qu'on nous en dit, c'est au cœur du combat pour l'avènement de véritables démocraties dans le monde arabe et musulman. On y retourne. Deux batailles décisives sont en cours, l'une pour la liberté des femmes et l'autre pour la séparation des pouvoirs politiques et religieux. En Tunisie comme en Égypte, les victoires électorales de l'islamisme politique mettent en effet en grave péril des acquis laïcs et progressistes obtenus de hautes luttes par le passé. Hein. On est en plein dedans en ce moment. D'où viendra la lumière ? Jemila Benhabib est convaincue, avec d'autres, que ce sont les femmes qui achèveront les révolutions du printemps arabe. C'est de cela dont traite ce livre-là. Ah, le polar du jour, quand même, ça nous prend toujours un petit polar. Eh bien, je pourrais rajouter le polar suédois du jour. Il est signé, Akam Nesser, N-E-2-S-E-R. Ça s'intitule « L'homme sans chien ». 105 bougies à souffler, une sainte famille, une petite province, en Suède, une petite ville en province en Suède. Une fausse bonne humeur, vous savez, des retrouvailles un peu guindées, mais un meurtre dans la famille. Je ne vous en dis pas plus, mais évidemment, ça en prend un.
Ben oui.
Ce que je peux vous dire sur Nesser, par exemple, c'est que beaucoup de ses romans ont été adaptés en Suède pour la télévision et même pour le cinéma. Donc, il fait partie des grands. Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour un dernier livre? Alors, on va y aller avec La frousse autour du monde, l'ultime frousse autour du monde pour les gens qui aiment voyager. Ben oui, Bruno Blanchet.
Ah.
Et c'est son tome 4. Mais vous savez que les gens adorent ça ici, hein, au SQLA. Luc Fortin, qui est animateur ici, non-voyant aussi, adore lire ces livres-là. Alors voilà qu'en 2000, on nous rappelle qu'en 2004, quand Bruno Blanchet est parti en solo Globetrotter, dans le monde, il n'était pas entièrement seul. À la maison, il y avait des milliers de lecteurs qui attendaient chaque semaine le récit de ses aventures publiées dans la presse, un peu comme on suit les tribulations de son personnage préféré. Eh bien, 10 ans plus tard, il récidive avec le tome 4, qui n'est pas différent des autres dans sa forme colorée et son contenu personnel et inclusif. Ça vient de sortir au SQLA, donc ne ratez pas ça. Si vous aimez voyager dans votre tête avec Bruno Blanchet, ce que je fais régulièrement moi-même. Je voudrais remercier beaucoup mon ami Michel Lecomte d'avoir été avec moi pendant cette émission. Merci à Martin Dupuis. Et puis, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de cette émission à Livre Découvert. Passez une belle journée. Merci, au revoir.